Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour les conférences du carême protestant. Durant toute la période du carême, nous vous proposons une série de conférences sur les fondamentaux du protestantisme autour de cette idée forte de Luther, Coram Deo, vivre devant Dieu. Cette année, nous serons en compagnie de Jean-François Brenne, pasteur de l'église protestante Unie de France à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Pasteur Jean-François Brenne, bonjour.
Bonjour.
Vous intitulez cette quatrième conférence « La grâce, un sourire offert, l'élan de Dieu vers nous ». Alors, pour commencer cette conférence, une petite question plus personnelle. La grâce est un mot compliqué à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre cheminement personnel ?
Je prendrai une image. Pour tous ceux qui ont fait un peu de randonnée, il arrive parfois qu'on ait le sentiment de s'être un peu perdu. Il n'y a plus de balises visibles sur le chemin, et puis le soir approche, il n'y a pas de gîte à proximité, pour peu que l'orage menace à l'horizon. On est perdu, et puis tout d'un coup, voilà qu'un ami dit « j'ai trouvé la balise ». Et voilà, il y a la balise sur le chemin, et du coup on n'est plus perdu, alors tout reste à faire, il faut encore trouver le gîte, mais on n'est plus perdu, et tout est... La force est revenue, le courage est là, et on sait où on y va. Et voilà, une illustration de la grâce pour moi.
Et on approfondit ensemble maintenant ce concept de la grâce dans cette conférence dans laquelle vous nous conduisez.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Dans ce premier verset du psaume 67 qui nous accompagne, entre le mot « Dieu » et le verbe « bénir », qui dit l'être même de Dieu, se trouve un petit mot, celui de grâce. Et ce mot brille au cœur de ma lecture de la Bible. Il dit le déploiement de la bénédiction pour l'homme qui la reçoit. Mais qu'est-ce que la grâce ? Qu'est-ce que ce vieux mot usé de la théologie peut encore avoir à nous dire ? En quoi peut-il faire sens ? La grâce, dans notre psaume, se dit en hébreu hanan, mot dont la racine désigne d'abord la grâce d'une femme, ce qui est gracieux. Le mot évoque aussi ce qui est précieux, et puis il se déploie avec les idées de compassion, de miséricorde, de ce qui libère d'un châtiment. Nous retrouvons ce sens dans l'expression de la grâce présidentielle, par exemple. Le mot dit aussi la faveur, comme en français, lorsque nous disons que quelque chose ou que quelqu'un trouve grâce à nos yeux. Le mot évoque enfin une manière d'être dans la douceur et la beauté. Nous retrouvons ce petit mot dans une des plus anciennes formules de bénédiction que nous donne le texte biblique, au chapitre 6 du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » C'est la bénédiction sacerdotale, celle que seuls les prêtres d'Israël pouvaient dire. Et au jour de l'expiation, une seule fois l'an, le grand prêtre terminait cette bénédiction en prononçant le nom de Dieu qu'Israël avait renoncé à vocaliser, le tétragramme. La seule fois où le grand prêtre pouvait prononcer le nom de Dieu, c'est en donnant cette bénédiction. Et l'expression « faire rayonner sur toi son regard », littéralement sa face, est un hébraïsme qui veut dire « sourire ». Oui, Dieu nous sourit. La grâce dit le sourire de Dieu au monde et sur nos vies. Ainsi, nous croyons qu'au commencement, il y a ce sourire de Dieu sur nos vies. Voilà ce qu'est la grâce au commencement, avant tous les déploiements postérieurs. Dans une de ses prédications, le pasteur Pierre Chrétien la nommait « cette chose indescriptible et inexplicable, cette chose gratuite, inattendue, qui transforme ma faiblesse en puissance de vie et d'action. » La grâce. Seulement la grâce d'une parole reçue qui est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier, comme le dit le psalmiste. La grâce d'une lumière offerte pour éclairer la nuit. Comme le dit le père Maurice Belay, la grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève au cœur même de la nuit la lumière irrépressible que rien ne détruira. Voilà la grande affaire de Dieu, sa grâce pour l'humain. malgré et par-delà nos échecs, nos souffrances, nos errances et nos erreurs. Et cela est posé d'une façon inconditionnelle en Jésus le Christ. Le théologien protestant suisse Karl Barth l'exprime en ces termes. Dans toutes les variations possibles où la communauté exécutera son mandat, il devra s'agir toujours et partout, en toutes circonstances, et quelles que soient les empreintes individuelles, du seul et même contenu, c'est-à-dire inconditionnellement de Jésus-Christ, du grand oui de Dieu, de sa bonté, de l'homme anobli par la bonté de Dieu. Fin de citation. Le grand oui que Dieu dit à l'homme. Voilà ce qu'est désormais la grâce pour le Nouveau Testament, et voilà dévoilée la volonté de Dieu. Lorsque le chrétien prie avec les paroles du Notre Père, disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il acquiesce alors à ce oui et s'engage à devenir participant du grand oui que Dieu dit au monde. C'est cela, faire la volonté de Dieu. Ici, une parenthèse s'impose. Le piège est grand, en effet, de comprendre ces mots, que ta volonté soit faite, au sens d'un destin tout tracé, d'un « c'était écrit ». Bien sûr, souvent, lorsque survient l'accident ou telle rencontre déterminante, nous nous disons spontanément « c'était écrit ». Et il est exact que nous trouvons bien mention d'un grand livre de la vie où tout est écrit, au chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais si nous relisons attentivement ce texte, nous découvrons que ce qui est écrit, ce sont nos actions. Et qui a écrit les pages du grand livre ? Nous-mêmes, chaque fois que nous avons agi, choisi ou pas, fait ceci plutôt que cela. C'est nous qui sommes les auteurs du grand livre de la vie, pas une volonté extérieure, fût-elle divine. Ce point est essentiel. Et cela est le fruit d'un véritable combat de la part des théologiens chrétiens, car il s'agit ni plus ni moins de dire la liberté de l'homme et sa responsabilité. Voilà sa volonté, qui est sa grâce, son sourire, son oui en Christ à l'humain. Une parabole très connue dans l'Évangile selon Luc le raconte admirablement. Écoutons-la, c'est au chapitre 15e. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain, et il dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de chez mon père ont du pain de reste ?» tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir, avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu ? Perdu lorsque l'échec vient tout effacer, perdu lorsque le deuil vient tout obscurcir, perdu lorsque la maladie vient tout empêcher. Oui, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu ? Ou encore perdu lorsque le quotidien s'en vient tout affadir et ne nous permet plus de jouir de la vie ? Perdu lorsque la jalousie nous dévore de sa morsure féroce ? Perdu lorsque la proximité nous empêche de voir l'autre en vérité. Car il y a plusieurs façons de se perdre, et notre parabole commence bien par ces mots « Un homme avait deux fils ». Non pas un, mais deux. Et ces deux-là, nous les connaissons trop bien en vérité. Ils représentent les deux facettes de notre humanité. Ces deux-là, c'est moi, c'est nous, chaque fois que nous échouons à être. Tout simplement. Oublions un instant nos vieilles lectures moralisatrices et regardons, avec un regard neuf, si c'est possible, nos deux fils. Le premier n'est pas plus mauvais qu'un autre. Et je ne crois pas qu'il soit juste de voir dans son désir d'indépendance je ne sais quelle révolte contre son père. Car les historiens et les exégètes nous apprennent qu'en ce temps-là, le cadet devait partir. C'était la règle. Le père lui remettait sa part de biens meubles, quelques têtes de bétail peut-être, et l'aîné restait pour faire tourner la boutique, héritant ainsi des immeubles et du gros du troupeau. Notons que ce type d'arrangement, dans les petites et moyennes exploitations agricoles, existera aussi en France, dans certaines régions, jusqu'au XIXe siècle. Le cadet donc devait partir, ce qu'il fit. Oui, mais voilà, il ne parvient pas à faire sa vie, comme on dit. Il disperse sa subsistance dans une vie sans sens, suggère le texte grec, employant un mot qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Littéralement, sans salut, comprenons, sans issue, sans sens. Il se perd dans une vie insensée, sans parvenir à lui donner sens. Comme souvent, cela peut nous arriver, me semble-t-il. La parabole ne dit pas que le cadet est allé faire la bringue avec des filles, non. Cela, ce sera la lecture de l'aîné, sa compréhension, son interprétation à lui. Nous y reviendrons. Mais le texte ne le dit pas. Il parle d'un homme qui a fait des mauvais choix économiques, et qui a échoué à donner du sens à son existence. Et je comprends bien cela. Et c'est cela son péché, son errance. Il est passé à côté, il s'est trompé de route, il n'a pas trouvé le chemin. Et il se sent, se ressent, se comprend comme fondamentalement un raté, un indigne. Alors il rentre en lui-même, avant de rentrer vers son père. Et nous arrivons à l'aîné. Lui, c'est tout l'inverse. Mais lui aussi s'est perdu. Il s'est perdu dans son obéissance, dans une fidélité servile. Lui aussi échoue à vivre sa filiation. Il n'a pas su voir ce qui lui était offert. Il n'a pas su vivre le partage avec son père. « Tout ce qui est à moi est à toi », lui dira pourtant le père. Mais l'aîné n'a pas su le voir, le comprendre et en vivre. Lui qui était fils, il se comprenait esclave. Lui qui était propriétaire, il se sentait seulement locataire, fermier. Lui qui était dans la maison, il n'a pas su l'habiter. Tragédie plus terrible encore, peut-être, que celle du cadet. Et combien cela résonne aussi en moi, et fait écho avec toutes les fois où je découvre, terrifié, que je suis passé à côté de la vie, à côté de l'autre, de moi-même. Et c'est alors l'aigreur et la jalousie qui s'installent à demeure. Avec ce terrible esprit de jugement, il a gaspillé sa vie avec des filles. Esprit de jugement, plus terrible encore que l'errance du cadet peut-être, qui lui ne juge que lui-même. Et là où ce dernier rentre en lui-même, avant et afin de pouvoir retourner vers le Père, l'aîné, lui, rentre en colère, ce qui nous met toujours hors de nous-mêmes, et refuse d'entrer chez le Père, c'est-à-dire chez lui. Et il reste encore et toujours à la périphérie de lui-même, passant à côté de la vérité de sa vie, de la fête, de son père et de son frère qui sont là et qui l'invitent à les rejoindre. Je comprends mieux pourquoi on s'est toujours précipité sur une lecture qui mettait toute la lumière sur le cadet. Car l'aîné nous ressemble trop. Et surtout, la parabole s'arrête là, dans ce suspense terrible. L'aîné, rentrera-t-il ou restera-t-il dehors ? Comme pour nous retourner la question. Et nous, que ferons-nous de notre vie et de l'invitation à la vie ? Resterons-nous dehors, enfermés dans notre esprit de jugement et prisonniers à jamais de notre jalousie et de notre colère ? Ou bien accepterons-nous l'invitation du Père ? Car le cœur de la parabole est là, dans le mouvement du Père, dans la sortie du Père à leur rencontre. Car le Père sort pour aller chercher les deux, l'aîné comme le cadet. Alors, laissons ces deux-là, nous les connaissons bien, trop bien même, puisque c'est nous, et regardons au Père. Car c'est lui qui est le personnage central de la parabole. C'est de lui qu'elle veut surtout nous parler. D'un Père qui est pris aux entrailles, pris aux tripes, touché de compassion, de miséricorde, devant l'errance dans laquelle trop souvent nous nous trouvons. Un Père qui veut restituer chacun de nous dans sa dignité et sa filiation retrouvée. Et il court, le Dieu de l'Évangile, vers l'homme, vers moi, vers nous. Un Dieu qui vient se jeter à notre cou et nous embrasser. Un Dieu qui nous restitue dans notre dignité humaine, qui sera toujours une dignité filiale. Un Dieu qui nous apprend que nous n'avons rien à faire, ni rien à prouver, ni rien à gagner, mais seulement à recevoir. Car la dignité ne s'acquiert pas à la force de nos petits bras musclés, mais toujours elle se reçoit d'un autre, du regard d'un autre, d'une parole d'un autre. Et ce regard et cette parole se font gestes qui relèvent et qui restituent. La robe, vêtement de la fête et de la noce, nous rappelle que nous sommes bien appelés à une vie dans la joie et le bonheur. L'anneau, qui symbolise l'appartenance filiale, le sceau, la dignité d'héritier du nom. Et puis les sandales, symbole de l'homme libre, mais aussi de la capacité juridique de l'homme, donc de ses choix et de sa responsabilité. Car c'est bien à une vie libre et responsable que nous sommes appelés. Voilà l'œuvre de Dieu, pour moi, pour nous. Voilà tout l'Évangile, celui de la grâce, celui de la miséricorde, de la joie aussi. Car le verbe se réjouir rythmera en effet tout le récit. Oui, nous pouvons réapprendre à nous réjouir. Car si parfois, souvent, nous sommes des filles, des fils bien médiocres, Dieu, lui, sans se lasser jamais, veut nous relever. Ce récit, propre à Luc, est la pierre angulaire de sa théologie. Et j'y entends battre le cœur de tout l'Évangile. L'Évangile, selon Jean, le dira aussi à sa manière, mettant ces mots dans la bouche de Jésus, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Mais ici, une précision s'impose. Cette grâce, paradoxalement, ne va pas sans peine. Car c'est une grâce qui coûte, qui va nous coûter, selon la belle expression de Dietrich Bonhoeffer. Car j'ai dit, commentant la parabole, un Dieu qui nous apprend que nous n'avons rien à faire, ni rien à prouver, ni rien à gagner, mais seulement à recevoir. Et cela vient nous prendre à contrepoint de tous les dictats et de toutes les doxas de notre société postmoderne occidentale, où l'homme serait le fruit de son faire, nous proclame-t-on. Se réaliser ne pourrait passer que par la performance, la compétition, l'utilitarisme, le toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus performant. Là où, du coup, la loi du plus fort sera la seule issue, oubliant du même coup que la loi du plus fort n'est qu'une autre version de la loi de la jungle. Et cela nous installe dans la peur, celle de l'autre, qui peut me déclasser, peur de moi-même surtout, peur de déchoir, peur de ne pas être à la hauteur. Il n'est pas aisé aujourd'hui, dans ce monde hyper-moderne, pour reprendre l'expression de Miguel Benassayag, de contester ce culte de la compétition et de la performance. Tellement, via le sport business notamment, il s'impose en maître comme modèle universel. Pourtant, ma lecture de l'Évangile me conduit à entendre qu'il y a une autre manière d'être possible. en se découvrant non comme le fruit d'une compétition, mais comme celui d'un don, ou pour le dire autrement, d'une grâce. Dans le noir de nos déceptions et désespoirs, pénètre parfois une vague de lumière. Et c'est comme si une voix nous disait « Tu es accepté, accepté par plus grand que toi et dont tu ne connais pas le nom », dit le théologien nord-américain Paul Tillich. Ne cherche rien, n'entreprends rien, ne projette rien, accepte simplement le fait que tu sois accepté. Lorsque ceci nous arrive, nous faisons l'expérience de la grâce. Après cette expérience, nous ne serons pas nécessairement meilleurs qu'auparavant, et nous ne serons pas plus croyants, mais tout est transformé. Fin de citation. Pourtant, accepter d'être accepté est peut-être notre plus grande difficulté aujourd'hui. Car il s'agit de s'accepter aussi dans ses failles, ses brisures, ses blessures. Accepter de se recevoir d'un autre, diantrement difficile en vérité dans notre société. Car voilà qu'il me faut encore assumer ma dépendance, mon interdépendance, nous qui aimons tellement à nous croire indépendants. Et pourtant, si nous répondons à ce mouvement du Père, si nous répondons à cet appel à être, alors nous pourrons véritablement exister, non plus à la seule force de nos efforts, mais par la seule force d'une parole de grâce reçue. D'aucuns pourraient me faire remarquer que dans notre parabole, la course du Père, de fait, n'est pas première, mais seconde, ce qui viendrait invalider tout mon propos. Je ferai alors remarquer que cette parabole, introduite d'ailleurs par un petit « il dit encore », fait suite à une autre qu'elle vient compléter. Et la parabole qui précède nous raconte comment un homme laisse tout son troupeau pour aller chercher la brebis perdue. Et là, incontestablement, le mouvement, la démarche de Dieu sont bien posés et signifiés comme premiers. Mais la question mérite pourtant que l'on s'y arrête encore un instant, car elle pose celle de notre participation au mouvement de la grâce dans nos vies. De quelle manière agit la grâce? Avec nous ou malgré nous? Le professeur André Gounel employait cette image très parlante, me semble-t-il, de la grâce du chat et de la grâce du singe. Devant un cours d'eau qu'il faut impérativement traverser, la maman chat prend son bébé par la peau du cou et saute la rivière. Le bébé chat n'a rien à faire et ne peut rien faire. Le bébé singe, lui, s'agrippe au ventre de sa mère qui saute par-dessus l'eau. S'il lâche, il tombe. Il doit, lui aussi, tenir ferme. Le mouvement du salut est bien toujours le même. Dieu seul nous sauve. C'est lui et lui seul qui nous fait passer le cours d'eau. Mais avec notre coopération ou malgré nous? Qui a raison? Grâce du singe, où l'homme participe en s'agrippant, ou grâce du chat, où l'homme doit seulement se laisser faire? En fait, je pense que tout dépend de quel cours d'eau il s'agit de franchir. Si c'est celui de notre mort, alors je m'en remets à la maman chat. Dieu seul, dans sa grâce, décide de cela, fût-ce même malgré moi, si tel est son bon plaisir, sa volonté, souvenons-nous. Mais s'il s'agit du fleuve de ma vie ici-bas, alors là, que vaut une parole si je ne la saisis pas? La grâce, l'appel à exister ont beau être là, si je ne l'accepte pas, si je ne laisse pas entrer la lumière dans ma vie, si je ne la laisse pas percer ma ténèbre, alors que vaut-elle? Alors oui, je crois que, d'une façon existentielle, nous pouvons parler aussi de la grâce du singe. Peut-être en ajoutant que si nous venons à lâcher, nous ne sommes pas perdus, car le père de la parabole sortira toujours pour venir à notre secours. Dieu seul nous sauve. Soit. Mais au fait, de quoi? Je pense, avec Pierre Buller, qu'aujourd'hui nous pouvons aussi penser le salut et donc la grâce en termes de réconciliation. Car qui dit réconciliation dit relation. Une relation conflictuelle appelée à s'apaiser. Il y a, dans le mot réconciliation, la racine concilio, et donc aussi concilium, qui, comme le grec synodos, marque le fait de cheminer ensemble. Ainsi donc, la réconciliation veut rétablir un cheminement perdu, cheminement avec soi-même, avec les autres, avec Dieu et avec le monde. Et cela me semble en parfaite consonance avec la parabole que nous avons entendue. Cette œuvre de réconciliation ne vient pas de moi d'abord. Elle est bien un don, un cadeau, une porte ouverte, un autrement possible offert pour aujourd'hui et pour demain. « Laissez-vous réconcilier, dit l'apôtre Paul. » Voilà que la litanie « échec, errance, offense, souffrance » n'est plus le déterminant absolu de ma vie. Car il y a cette expérience désormais d'une réconciliation offerte, promise, possible. Voilà que je n'ai plus à devoir me hisser sans cesse sur la pointe des pieds. Voilà que je n'ai plus à devoir sans cesse lécher mes plaies d'offensés. Voilà que je n'ai plus à devoir sans cesse faire le premier pas, mais seulement à laisser l'autre, Dieu lui-même, le Dieu de la vie, faire ce premier pas vers moi. Et alors de découvrir émerveillé que l'offense n'a pas et n'est pas le dernier mot de mon existence, mais qu'une marche ensemble est possible, une marche de réconcilier, pour aller de réconciliation en réconciliation, héros désormais de cette incroyable nouvelle, personne jamais ne se réduit à ses errances et à ses échecs. Mais là surgit une ultime interrogation. Pourquoi en vérité est-ce si difficile de me laisser réconcilier? L'étymologie du mot grec employé « katalasso » pour les hellénistes nous met sur la piste, car « alasso » signifie « changer, transformer ». C'est difficile parce que cela implique de changer, ou plutôt de se laisser transformer. Ainsi, il s'agit de se laisser transformer, de nous laisser changer, bousculer, fini les idées toutes faites, fini les déterminismes de tous ordres, fini la résignation et l'aquabon, nous pouvons nous laisser transformer. Comme le disait admirablement le père Teilhard de Chardin, ce qui est merveilleux dans l'aventure de la foi, c'est que la grâce peut descendre sur nous au moment le plus inattendu, car elle est un don et non un mérite, et quand elle vient, elle nous affranchit corps et âme, comme la rosée revivifie la fleur au matin.
Ainsi s'achève cette quatrième conférence du carême protestant avec Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Nous le retrouverons la semaine prochaine, toujours à 16h, pour la suite de ce cycle de conférences intitulé « Coram Deo, vivre devant Dieu ». Pour plus d'informations et pour retrouver les textes, rendez-vous sur le site carême-protestant.org ou bien écrivez au Carême Protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Carême Protestant. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Une émission proposée par le Carême Protestant et la Fédération Protestante de France, présentée par Benjamin Bories. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec le Carême catholique. Bonne fin de journée sur France Culture.